Interview du dimanche et dans les grands questionnements d'actualité sur le monde d'après, un philosophe, sociologue écrit et publie juste après la fin du monde, une fiction mettant en scène une petite fille, Natina, que les autres peuples appellent la vivante, vivante, survivante, parmi les survivants de la grande catastrophe. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui publiez juste après la fin du monde chez Nil Éditions. On est curieux de savoir évidemment à quel moment vous avez commencé l'écriture de cet ouvrage, puisque cette grande catastrophe doublée d'une renaissance coïncide avec la pandémie que le monde traverse. Mais au-delà du livre, et parce que avec la vaccination, avec le déconfinement, là en perspective ces dernières décisions de ces derniers jours, on pense apercevoir le bout du tunnel. Votre regard nous intéresse. D'abord parce qu'on a continué à travailler, parce que les entreprises ont mis en place le chômage partiel, le télétravail. Mais il faut le dire, Frédéric Lenoir, on a traversé une grande catastrophe, on la traverse encore.
Alors, on a traversé une grande catastrophe, mais il faut savoir qu'il y a eu bien pire et que je trouve que nos grands-parents qui ont vécu deux guerres mondiales ont vécu des choses bien plus difficiles que nous. En fait, nous n'avions pas vécu de catastrophe depuis 60 ans. Et d'un coup, il arrive ce qui est arrivé tout le temps dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire effectivement une catastrophe, un déséquilibre. Nous sommes tous bouleversés dans nos modes de vie quotidiens, dans nos habitudes. L'économie est fortement atteinte. Tout le monde est impacté au niveau psychologique, au niveau santé, dans les libertés. La peur de la mort revient. Et donc, je dirais qu'on vit quelque chose qu'ont vécu tous nos ancêtres à toutes les générations. Sauf que pour nous, évidemment, c'est tout à fait surprenant à cette époque où on avait l'impression ou l'illusion qu'on pouvait tout maîtriser et qu'on était à l'abri d'une telle catastrophe. Donc, effectivement, on vit une période très particulière pour notre génération. Et je tiens à préciser quand même que ce livre, ça fait 10 ans que je l'ai en tête. C'est-à-dire que j'avais fait un livre il y a 10 ans qui s'appelle L'âme du monde, qui était
En
un conte
effet.
initiatique et qui se terminait par une grande catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, on peut dire, de catastrophe écologique. Et là, j'ai pensé, je m'étais dit, je ferai la suite 10 ans après. Qu'est-ce qui se passe dans un monde qui redémarre après une grande catastrophe? Et donc, évidemment, c'est tombé, je dirais, pas à point, parce que
À point
je n'ai pas
nommé,
évidemment
ouais.
cherché. Mais point nommé, disons qu'il y a une synchronicité entre le fait que j'ai écrit cette suite, qui se lit d'ailleurs complètement indépendamment du premier livre, c'est qu'est-ce que devient un monde, qui cherche à renaître après une catastrophe écologique?
Alors je reviens sur les propos que vous venez de tenir. Pourquoi est-ce que vous nous ramenez, j'allais dire, vous nous reprenez dans la culpabilité en disant que bah, finalement, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents? On a ce qu'on
Non,
a devant soi, non, d'une certaine manière.
je cherche pas du tout à culpabiliser, je cherche simplement à mettre en perspective. Vous savez, le travail des intellectuels et des historiens, c'est de remettre les choses en perspective. Parce que les gens ont
Mais c'est
toujours
pour nous
l'impression
rassurer,
que...
du coup, Frédéric Lenoir.
Mais du coup, c'est plutôt positif, c'est pour vous rassurer. C'est pour dire, effectivement, nos ancêtres ont traversé bien pire. Et donc, ils ont réussi à surmonter des épreuves beaucoup plus grandes. Et donc, nous avons la possibilité, les ressources, les capacités de surmonter cette épreuve, parce qu'au fond, elle est moins grave que celle qu'ont vécu nos ancêtres, et on a toutes les possibilités de le faire. Donc, l'être humain, il est capable de rebondir, il est capable de résilience, il est capable de tirer d'une épreuve une opportunité pour tenir compte des expériences du passé et essayer de repartir autrement. Regardez la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose d'épouvantable. Toutes les horreurs qu'il y a eu dans cette guerre, c'est épouvantable. Et regardez, les décennies qui ont suivi ont été des décennies très positives. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'on va savoir tirer de cette épreuve que nous traversons, des leçons qui vont nous permettre, je l'espère en tout cas, d'aller vers un monde qui sera plus harmonieux que le monde dans lequel on est encore.
Alors ces leçons, elles sont égrenées. Il y a quelques, j'allais dire, fils conducteurs qu'on peut voir dans votre livre, notamment l'introspection, le travail sur l'ego, sur le soi. Et puis vous nous invitez à revoir la joie, parce que vous dites la joie, c'est l'expression de l'augmentation de notre puissance vitale.
Oui, c'est-à-dire que, alors je suis très spinoziste, hein, donc c'est Spinoza qui définit la joie effectivement comme l'augmentation de notre puissance vitale. C'est-à-dire plus on augmente notre capacité d'action sur nous-mêmes, sur le monde, etc., plus on est dans la joie. La joie, c'est on grandit, on s'améliore, on progresse. Pourquoi est-ce qu'en ce moment on est dans la tristesse? Parce qu'on diminue. C'est parce qu'on est limité dans notre capacité de liberté, de mouvement, d'action. Et donc on est dans la tristesse. Mais La joie, c'est justement cette capacité de mieux, d'être mieux capable finalement de progresser, de nous améliorer. Et je pense que quand on comprend que la joie dépend de nous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée aux événements extérieurs, même si les événements extérieurs peuvent fortement nous perturber, mais ce qu'il faut, c'est développer la compréhension de ce qui peut nous mettre dans la joie, donc de ce qui peut nous faire progresser. Et il y a beaucoup de gens
qui sont malheureux. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire sans le discernement d'autrui.
Voilà,
quand on a un verre à moitié plein, à moitié vide, on choisit celui qui est à moitié plein.
Alors, il y a deux choses. Il y a la capacité de voir le positif. Beaucoup de gens voient toujours le négatif. Et donc, par exemple, une crise, le mot chinois qui veut dire crise, c'est deux idéogrammes. L'un qui veut dire danger, l'autre opportunité. Il y a des gens dans la crise qui ne voient que le danger et qui ont peur. Il y a des gens qui voient l'opportunité. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette crise pour m'améliorer, pour aller plus loin, pour changer de métier, pour regarder les choses autrement, etc. Et donc, ce que je crois profondément, c'est que à travers toute crise, nous pouvons grandir, nous pouvons découvrir quelque chose de nous-mêmes, nous pouvons regarder les choses autrement. Regardez le nombre de gens qui ont traversé des grandes maladies. Eh bien, souvent, il vous dit « je ne suis plus la même personne, je ne vois plus les choses de la même manière, mon cœur s'est ouvert ».
C'est le travail sur la résilience, mais qui est compliqué.
C'est la résilience, exactement. C'est-à-dire le fait de rebondir et de croître après une épreuve. Et donc, je crois que nous pouvons vivre une résilience individuelle et collective, c'est-à-dire tenir compte de cette crise pour essayer de progresser, tant sur le plan individuel que collectif.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans la société actuelle, puisque d'une certaine façon, on nous dit qu'il ne faudra surtout pas refaire les erreurs du passé, et on va y venir. Mais d'un autre côté, on vit dans une époque, et d'ailleurs qui est heureuse, qui dit « vous avez mal, eh ben, il faut le dire ». Ce n'est pas comme il y a 50 ans, où quand on avait mal, on se taisait, on prenait sur soi, on avançait. Alors, d'une certaine manière, on est un peu coincé. Parce que justement, on nous dit « ayez mal et dites-le », on le dit.
En tout cas, ce qui me paraît très important, c'est d'accepter, de reconnaître nos fragilités. On a vécu quand même dans une époque où il fallait toujours se montrer très fort, performant, etc. Mais ça tue les individus. Ce culte de la performance permanente, du paraître, etc., il est écrasant. Et donc, reconnaître qu'on est fragile.
C'est la société de consommation aussi.
C'est lié à tout ça. C'est lié à tout ça. Et reconnaître qu'au fond, eh ben, on a des faiblesses, on a des fragilités, on a des peurs, on a des angoisses. Pouvoir le dire. Les enfants ont besoin, par exemple, de l'exprimer. C'est très important. Et donc, là, je crois qu'on est effectivement une société malade, avec des individus fragilisés. La première chose à faire, c'est de reconnaître ses fragilités. Et puis, à partir de là, en partant de ce que nous sommes, avec nos fragilités, nos blessures, nos difficultés, nos peurs, etc., eh bien, on peut effectivement essayer de grandir ensemble, c'est-à-dire en lien. Et on a besoin de recréer du lien. Et on a besoin des autres. Et on s'aperçoit que dans les moments de fracture, comme c'est actuellement, on a encore plus besoin des autres. Et donc, je crois que c'est très important de renouer des liens qui sont plus positifs, plus bienveillants. La bienveillance, c'est capital. Une société sans bienveillance, elle crève. Et donc, on était trop dans la performance, trop dans la compétition. J'espère qu'avec cette crise, on sera plus dans la collaboration et la bienveillance.
Dans la collaboration, dans la bienveillance, et puis quelques petites choses aussi, ne pas refaire les erreurs du passé. Ça m'a beaucoup amusé quand votre petite héroïne revient sur ne plus manger les animaux. Moi, avant, j'avais une grande exploitation. Il y a quelque chose un peu de militant, là, quand même, Frédéric Lenoir.
Ah, mais je suis un militant.
C'est-à-dire
que je défends des points
de vue
engagés.
Voilà.
Voilà, bien sûr, je ne suis pas purement dans une analyse objective. J'ai effectivement des convictions. Parmi mes convictions, c'est qu'on exploite beaucoup trop la nature et les animaux. On pille les ressources de la terre.
Donc on vivra
on
mieux,
les
selon vous, si on
mais
arrête
sûr,
de manger des animaux.
On est en harmonie avec les vivants, les autres vivants. On a fait disparaître la moitié des espèces, les animaux d'élevage. Alors je ne suis pas du tout contre le fait de manger de la viande. Je dis simplement manger de la viande qui vient de l'élevage intensif dans lequel on torture les animaux toute leur vie avant de les abattre de manière épouvantable, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut pas rentrer dans cette logique dans laquelle on mange sur le malheur d'autres êtres vivants. Et donc qu'on mange de la viande, mais avec discernement. Déjà qu'on en mange moins, c'est bon pour la planète et pour la santé, mais avec discernement. C'est-à-dire d'où, comment les animaux ont été élevés. Et donc je crois qu'il faut avoir plus de respect pour le vivant. Et à mon avis, une des tragédies de notre monde actuel, c'est qu'on n'a pas de respect pour la planète et pour le vivant. Et donc, les catastrophes à venir, elles seront liées à des problèmes écologiques, à des virus,
et
etc. Tout ça est connecté.
Ça fait partie, justement, des erreurs, selon vous, à ne pas recommettre.
Un
petit dernier mot. Oui, en effet, un petit dernier mot, parce que c'est vrai que ça peut, non pas perturber, mais ça peut interroger ceux qui sont des très fervents croyants. Vous dites que vous parlez de l'ancien monde avec la bienveillance de Dieu, les offrandes, les sacrifices. Vous mettez tout ça en perspective en disant que finalement, on achetait quelque part les croyances, on s'achetait à un Dieu pour qu'il soit bienveillant avec nous.
Ben, si on regarde l'histoire des religions, c'est un peu ce qui s'est toujours passé dans toutes les sociétés et les civilisations. C'est que toutes les croyances et les pratiques religieuses ont toujours été liées à j'attends la protection d'un dieu ou des dieux, et en échange, je donne des sacrifices, des offrandes, ce qui m'est précieux.
Donnant.
Mais c'est les anthropologues comme Marcel Mauss, etc., ont très bien montré ça. On est dans une société du donnant-donnant, et toutes les sociétés humaines se sont construites à travers leur religion dans du donnant-donnant avec les divinités. Et donc, je dis, il faut sortir de cette mentalité. Il faut, si on a la foi, être dans une gratuité. Il faut être dans quelque chose qui est beaucoup plus lié à un don sans attente. Oui. En retour, et à mon avis, c'est ça qui fait progresser l'être humain. Alors que quand on est effectivement que dans le donnant-donnant, notamment au niveau religieux, je pense qu'on ne va pas très très loin dans la spiritualité.
Et ce schéma, d'ailleurs, on peut le reproduire dans bien des situations qui ne sont pas forcément des situations envers des croyances. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir, d'avoir partagé ces quelques instants ce matin sur Europe 1. Vous publiez juste après La fin du monde chez Nil Éditions.